Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'une des journalistes d'investigation les plus audacieuses du 19e siècle, sûrement la plus audacieuse d'ailleurs. Connue pour ses reportages percutants et son engagement en faveur de la justice sociale, elle a enquêté sur de nombreux sujets tabous pour son époque. Elle a notamment feint la folie pour exposer les horreurs des asiles psychiatriques, ce qui est aujourd'hui l'un des premiers exemples de scoop journalistique sous couverture. Mais ce n'est pas tout. Son célèbre tour du monde en 72 jours a non seulement démontré son courage et sa détermination, mais reste le premier tour du monde féminin sans être accompagné d'un homme. Notre prochaine héroïne incarne l'esprit indépendant et libre, défiant les obstacles pour donner une voix aux sans-voix et mettre en lumière les vérités qui dérangent. Bref, sans plus attendre, partons à la rencontre de cette brillante précurseuse d'un tout nouveau genre d'écriture. J'ai nommé Nelly Bly. Je n'ai jamais écrit un seul mot qui ne vienne pas de mon cœur et je ne le ferai jamais, dira-t-elle peu de temps avant sa mort. Nelly Bly aimait raconter des vraies histoires de vie, celles de ceux qui sont souvent oubliés ou méprisés. Aujourd'hui, puisse donc cette petite chronique redonner une voix à cette brillante femme qui portait la voix des autres. Pour cela, revenons au début de l'histoire d'une certaine Elizabeth Jane Cochrane. Nous sommes en Pennsylvanie au début des années 1860, plus précisément à Pittsburgh. Comme de nombreuses métropoles aux États-Unis, Pittsburgh est au cœur du bouillonnement de la révolution industrielle, mais aussi de la guerre civile, qui sévit depuis déjà 4 ans, lorsque la petite Elizabeth vient au monde. En réalité, la famille Cochrane vit dans un petit village tout près de la ville, qui porte le nom de son père. Il se trouve que Michael Cochrane possède la moitié des terres locales. Toute sa vie, cet immigré irlandais parti de rien ne cesse de répéter à ses 15 enfants qu'une vie sans travail est dure, ce n'est pas une vie. Oui, 15 enfants, vous avez bien entendu. Elizabeth est née d'un deuxième mariage. Enfant, tout son entourage la surnomme Pinky parce qu'elle porte des vêtements roses tout le temps. Mais l'habit ne fait absolument pas le moine car sous cette apparence se cache une jeune fille très têtue et pleine de fougue. La vie est assez douce jusqu'à la disparition de son père lorsqu'elle a 6 ans. Elle est expulsée avec une partie de sa famille et se retrouve sans argent. Face à cette impasse, sa mère se remarie dans la foulée avec un homme fortuné qui révèle rapidement son vrai visage. En plus d'être alcoolique, il est violent et bat la mère d'Elizabeth. Elle finit par prendre la décision de demander le divorce. À l'époque, faire une telle demande en tant que femme est un véritable parcours du combattant. Elizabeth doit être entendue à la barre pour que la justice accorde le divorce à sa mère. Heureusement, la procédure aboutit avec succès, mais malheureusement, retour à la case départ pour la famille. Elizabeth sait que la vie va se corser et qu'elle va devoir prendre des responsabilités à son si jeune âge si elle veut aider sa mère. Travailler, d'accord, mais pour faire quoi ? Devenir quoi ? Parce que dans les années 1870, le choix de métier accessible à une jeune fille est quand même très limité. Comme Elizabeth aime bien l'écriture et qu'elle est douée, elle intègre une école pour devenir institutrice. Elle a alors 15 ans. Malheureusement, elle est à court de fonds au début d'un semestre et elle ne peut plus se permettre de payer les frais de scolarité. La direction décide alors de la renvoyer. Mais un jour, alors qu'elle feuillette le Pittsburgh Dispatch, un article attire son attention. Visiblement, un journaliste s'est farci d'écrire un long édito dans lequel on peut lire noir sur blanc « La place d'une fille est à la maison, à coudre, à s'occuper des enfants sans quoi la société s'effondre. Une femme qui travaille est une monstruosité. » Avec toute la colère qui s'empare d'elle, Elisabeth prend la plume et assassine l'auteur de ce torchon dans une lettre. Cette réponse incisive, elle la signe du nom de l'orpheline solitaire. Le rédacteur en chef décide de publier la lettre et de proposer à l'autrice un travail si celle-ci réussit à écrire un article qui sort du lot. Avec son esprit bien trempé, Elisabeth accepte le défi et rejoint l'équipe du journal. Il lui propose également de choisir un pseudonyme d'écrivain, et c'est ainsi qu'Elisabeth Jane Cochrane devient Nellie Bly, du nom d'une chanson populaire de l'époque, et que notre héroïne aime plutôt bien.
Nellie Bly, bring the broom along. We'll sweep the kitchen clean, my dear, and have a little song.
Avec ce nouveau travail, Nellie peut exercer son talent pour l'écriture et parler de ce qui la révolte. Ses premiers articles portent sur les travailleuses pauvres et les conditions de travail déplorables dans les usines. Ses écrits font un carton et réunissent de plus en plus de lecteurs. Pourtant, le monde est ainsi fait. Du côté des industriels, on n'aime pas trop cette femme qui fouille dans les affaires des entreprises de la région. Alors les patrons font pression sur le journal et menacent de retirer leur publicité. Le directeur cède et Nellie se retrouve cantonnée aux pages de jardinage, de couture et de théâtre. Zéro épanouissement plus tard, elle démissionne et change d'air en partant avec sa mère direction le Mexique. Au début, elle tient un carnet de voyage où elle décrit tous les paysages qu'elle rencontre là-bas. Pourtant, Nellie est Nellie Bly. Impossible pour elle de rester à contempler la vie. Ce qu'elle veut, c'est avoir un impact. Elle enquête alors sur la corruption au sein de l'administration mexicaine et dénonce les pratiques d'atteinte à la liberté de la presse. Au bout de 6 mois, on intime à Nellie de partir et de rentrer aux États-Unis si elle ne veut pas se faire arrêter. À son retour, le dispatch n'a rien de mieux à lui proposer que sa vieille rubrique jardinage. Alors direction New York pour aller convaincre le summum du journalisme de lui offrir un poste. Elle tente le tout pour le tout auprès du New York World tenu par le célèbre Joseph Pulitzer. Le directeur lui dit que si elle réussit à infiltrer un asile psychiatrique et à écrire un article choc, elle sera embauchée. Encore une fois, Nellie est bien déterminée à relever le défi. À l'époque, le journalisme sous couverture est tout nouveau. Alors en rentrant chez elle, Nellie s'entraîne devant la glace à perfectionner ses mimiques pour que lorsqu'elle arrive dans l'asile, on la déclare folle. Le lendemain, elle raconte à des hommes en blouse blanche que ses amis sont des troncs d'arbres et le diagnostic est formel. Nellie doit être internée. C'est alors que l'infiltration d'un asile psychiatrique à Manhattan, le terrible Blackwell's Island Hospital, commence. Une fois pensionnaire, elle est horrifiée de la cruauté avec laquelle les patients sont traités. Certaines sont attachées par des cordes comme des bêtes. D'autres sont sous-alimentées et battues. Elle découvre également que certaines femmes étrangères sont internées ici sans raison. Bref, on les traite comme des moins que rien. Et Nellie se rend compte que les pensionnaires ne sont pas là pour être soignés, mais pour servir de main-d'œuvre. Après une dizaine de jours à vivre l'enfer, un avocat réussit à sortir Nellie. Le reportage issu de sa mission d'infiltration fait la une de tous les journaux. Nellie a fait le choix de raconter le milieu du point de vue des pensionnaires et de leurs ressentis. Tout ce qui fait un bon angle social dans un article. Alors à 23 ans, elle est embauchée au New York World et devient l'une des pionnières du journalisme d'investigation. Son nom suffit à vendre du papier maintenant. Comme notre héroïne est friande de défis et qu'une vie sans travailler dur n'est pas une option, comme l'a dit son père, elle décide de se lancer dans une toute autre aventure pour les pages du New York World. Cette idée de fou, c'est un tour du monde en 80 jours. À la manière d'un Phileas Fogg au féminin, le défi est double pour Nelly. Devenir la première femme à réaliser un tour du monde sans escorte masculine et en faire un record de rapidité. Certains, bien évidemment, tentent de la dissuader, mais c'est mal connaître Nelly Bly. Et le 14 novembre 1889, elle quitte New York à bord de l'Augusta Victoria avec un seul bagage et un grand rêve en tête. I'll stage a ballet on a tabletop. Command performance, finger style, yeah, yeah. À la fin du 19e siècle, les transports se développent rapidement dans le monde. On voit apparaître plus de lignes maritimes et de lignes de chemin de fer, ce qui facilite le périple de notre aventurière. En bateau, en train, voire même en montgolfière, elle traverse seule de nombreux pays et découvre une multitude de cultures et de traditions. Elle fait une courte escale en France et prend le temps de s'arrêter à Amiens, où elle fait la rencontre de Jules Verne. Toute la presse suit de près le long voyage de Nelly. L'aventure devient populaire et des milliers de gens achètent pour la première fois le journal, rien que pour suivre ce feuilleton. Pour amener un peu de piquant et de rebondissement dans l'histoire, le journal envoie même une autre femme faire exactement le même trajet que Nelly. En gros, personne ne la croit vraiment capable de réussir un tel défi. Certains ouvrent même les paris. Le périple est dur, une tempête en bateau vient même compliquer son avancée, et pourtant, Nelly Bly pose le pied à New York le 25 janvier 1890, fière de tout ce qu'elle vient d'accomplir. Elle a bouclé ce tour du monde en un temps record, celui de 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Elle confie d'ailleurs: mes compatriotes étaient très fiers que ce fût l'une des leurs qui ait relevé pareil défi. Quant à moi, je me félicitais que ce fût une femme qui ait réalisé cet exploit. Son défi donne lieu à un livre et même un jeu de société, mais le retour à la réalité est extrêmement dur. Son frère meurt peu de temps après. Nelly décide donc de prendre en charge sa belle-sœur et ses neveux et nièces. Elle est épuisée et à court d'argent. À la surprise générale, elle épouse un riche industriel de 40 ans de plus qu'elle qui tient une fabrique de tonneaux métalliques. Nelly met progressivement de côté le journalisme pour se concentrer sur la gestion de l'entreprise. Ses responsabilités prennent de l'ampleur quelques temps plus tard, lorsque son époux décède. À elle, à présent, de faire tourner la boutique. Elle, qui n'a également rien perdu de son esprit rusé, invente un nouveau modèle de bidon de lait qu'elle fait breveter. À cette époque, l'entreprise s'enrichit considérablement. Elle permet également aux employés de vivre et de travailler dans des conditions favorables. Assurance santé, augmentation de salaire, et même un accès à une bibliothèque et à des centres de loisirs. Malheureusement, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Nelly doit se résoudre à vendre l'entreprise. Dans cette période de grand chamboulement, la flamme du journalisme se ravive comme quelque chose qu'elle a toujours eu dans le sang. Elle décide alors de devenir la première femme correspondante de guerre et part couvrir le front en Europe. Les lecteurs suivent de près dans le journal les nouvelles quotidiennes de notre héroïne. Elle raconte d'ailleurs: la tranchée était boueuse et dégoûtante. Je glissais, trébuchais, en retenant mon souffle. Du moins ce qu'il m'en restait. Je commençais à me demander si nous allions vraiment sortir de là. À la même époque, le vieux continent est secoué par les manifestations des suffragettes, un sujet dont Nelly s'empare tout de suite. Elle prédit même que les États-Unis connaîtront les mêmes bouleversements d'ici peu. Quelques années passent, la fin de la guerre arrive, Nelly rentre à New York et reprend son rythme au journal avec une chronique qui parle de tout ce qui l'énerve dans le monde. Les conditions de travail ouvrier, le manque de droits des femmes, des orphelins, la corruption, etc. Son chemin se termine en 1922 alors qu'elle est emportée par une pneumonie. Nelly a 57 ans. Au lendemain de son décès, la presse annonce la mort de la plus grande journaliste d'Amérique. Cela fait quelques années maintenant que le New York Press Club décerne le prix Nelly Bly Club Reporter aux jeunes journalistes dont les travaux sont les plus audacieux. De quoi léguer tout un héritage d'inspiration. En somme, cette jeune reporter enquêtrice à la bravoure sans égale a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la brillante Nelly Bly. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une femme aux multiples talents qui a marqué à la fois l'histoire à Hollywood et dans le monde de la technologie. Née en Autriche à l'aube de la Première Guerre mondiale, elle est devenue une star du cinéma américain des années 40. Mais elle n'était pas seulement une actrice glamour. Derrière les projecteurs, elle était aussi une inventrice brillante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a co-inventé une technologie de communication secrète destinée à guider les torpilles en utilisant un système que l'on appelle saut de fréquence. Ce concept innovant est devenu la base de technologies modernes telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Un rendez-vous qui promet encore une rencontre passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.